les grands titres de ce mardi 18 avril. À 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle française, 4 candidats sont au coude à coude. Les États-Unis envisagent différentes façons de répondre au lancement de missiles ratés de la Corée du Nord, incluant la guerre. Et en Australie, le nombre de détenteurs de visa 457 pour travailleurs qualifiés a baissé du tiers dans la dernière année. En France, nous sommes à 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle et rien n'est certain. 4 candidats sont au coude à coude, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Regardons d'abord ce que faisait Emmanuel Macron hier. Il tenait son plus grand meeting de campagne à Paris. Valérie Gasse de RFI était sur place.
La France comme vous, je l'aime dans son passé et je ne prétends pas être le seul. Mais à la différence des autres, je l'aime aussi dans son avenir.
Parler de la France pour mieux parler aux Français, c'est le choix qu'a fait Emmanuel Macron pour ce meeting si important à moins d'une semaine du premier tour. Devant une salle comble à l'enthousiasme communicatif, une salle qu'il a souvent suivie dans ses élans, comme lorsque la foule a entonné la Marseillaise. La France de l'avenir, la France du prochain quinquennat, cela a été le fil conducteur d'un discours placé sous le signe de l'Union nationale. Emmanuel Macron s'est projeté au-delà du 7 mai pour essayer de mobiliser les indécis en marquant sa différence, notamment avec François Fillon.
Dans la République que nous aimons, l'intérêt général, la laïcité et notre histoire, ils n'ont pas le visage du sens commun. Ils ont votre visage.
Et puis joueur, Emmanuel Macron a aussi rebondi sur ce tic de langage dans lequel certains voient un signe d'indécision, celui de dire souvent et en même temps.
Je veux que nous soyons un grand pays, un pays fort, mais en même temps, oui, en même temps, un pays solidaire.
Et dans un final où sa voix cette fois-ci n'a pas faibli, il a posé l'enjeu du premier tour.
Dimanche prochain, vous serez les porteurs du destin de la France. Nous allons gagner!
Ce message de rassemblement semble être une réponse à Marine Le Pen qui a attaqué Emmanuel Macron samedi à Perpignan. Elle était aussi à Paris hier parlant de quoi d'autre? D'immigration.
Le rendez-vous de dimanche est historique. Historique pour la France, historique pour notre peuple, historique pour notre nation. Ce qui se joue dimanche prochain, je l'ai dit, je l'ai répété inlassablement dans cette campagne, car je crois que c'est la vérité. C'est un enjeu de civilisation. Dimanche, le choix est simple. Soit la France qui renaît, soit la France qui sombre.
François Fillon, lui, était à Nice où il a dit qu'il était confiant de passer au second tour. Un reportage de Julien Chavanne.
Les sifflets ont commencé dès son apparition au micro.
Ce soir, nous sommes à Nice! Dans cette région à laquelle, au nom du gaullisme auquel j'appartiens depuis le premier jour de ma vie politique, je crois ne jamais avoir sali ma famille politique.
Comme à Toulon, il y a un peu plus de 2 semaines, les sympathisants fillonistes en veulent toujours à Christian Estrosi d'avoir appelé au remplacement de François Fillon. Circonstance aggravante, le lendemain de ce meeting toulonnais, il rencontrait Emmanuel Macron. Alors pour calmer la salle, François Fillon se lève, pose une main sur le bras de Christian Estrosi avant d'appeler à faire la paix.
Je veux remercier Christian Estrosi et Éric Ciotti pour leur accueil. Je veux que vous les applaudissiez tous les deux, ensemble. Parce que ce que nous avons à faire, c'est de nous rassembler.
Malgré la mise en scène de cette réconciliation, c'est loin d'être gagné ici dans le Sud-Est. L'opération Rassemblement continue cette semaine et cela devrait mieux se passer avec Xavier Bertrand ce mardi à Lille, avant un déplacement aux côtés d'Alain Juppé mercredi.
Julien Chavanne pour RFI. Et finalement, le candidat surprise de ce quatuor, Jean-Luc Mélenchon, lui, il voguait à travers l'Île-de-France à bord d'une péniche, la péniche insoumise, s'arrêtant à quelques endroits pour parler à des militants.
Alors les autres ballots, ils ont mis ça à la une de leur journal. Le risque Mélenchon pour les places financières. Bon, encore heureux que je suis un risque. I am very dangerous.
Plus tard dans le programme, on parlera justement à un militant de la France insoumise et Frédéric Citeau parlera plus en détail du premier tour de la présidentielle. Mais pour tout de suite, rendons-nous du côté de la Corée du Nord. La ministre australienne des Affaires étrangères, Julie Bishop, a dit que les États-Unis envisageaient différentes façons de répondre au lancement de missiles ratés par la Corée du Nord, incluant la force. Elle avertit que l'Australie sera entraînée dans le conflit si le leader nord-coréen Kim Jong-un réussit à développer des missiles qui peuvent atteindre les États-Unis. Elle a dit à ABC que les États-Unis doivent se défendre contre une possible attaque.
It means that the Trump administration will seek out new and creative ways to meet the North Korean challenge. First, the United States is deploying what's called the THAAD missile system with South Korea. We certainly support the right of our allies and friends to ensure that their interests are protected.
La ministre australienne des Affaires étrangères, Julie Bishop. Pendant ce temps, la Corée du Nord se dit carrément prête à une guerre nucléaire. L'ambassadeur nord-coréen aux Nations Unies, Kim In-ryong, a dit que les États-Unis entretenaient une situation dangereuse.
If the United States dared opt for the military actions, the crying out for preemptive attack and the removal of the headquarters, the DPRK is ready to react to any mode of war desired by the American. The prevailing grave situation proved once again DPRK was entirely just when it increased in every way its military capability for self-defense.
L'ambassadeur nord-coréen aux Nations Unies, Kim In-ryong. En Australie, le nombre de détenteurs de visa 457 pour les travailleurs qualifiés a baissé du tiers dans la dernière année. Le ministre d'État spécial Scott Ryan a dit à Sky News que le nombre de détenteurs de visa 457 était beaucoup plus élevé lorsque Bill Shorten était ministre de l'Emploi.
He just wants to build up this grievance and play to this fear that people have of foreigners taking Australian jobs. But his record, as opposed to his words, is what he's going to be held accountable to. It is important in politics we are held accountable for our deeds, not just our slogans.
Mais le député travailliste Matt Thistlethwaite a dit que le Parti libéral n'avait pas le droit de prendre le crédit pour cette baisse puisqu'elle est le résultat des politiques de son parti.
And the number one change that we made was proper labour market testing. So you had to test a domestic market before you could introduce 457 visa workers. And as a result of those reforms, as a result of those legal changes, the numbers fell. Now, because employment is a lagged indicator, the numbers have fallen since that time and into the period of the Turnbull government. So the fact is that it was Bill Shorten that put in place these changes that have seen the reduction in the numbers.
Le député travailliste Matt Thistlethwaite. Le député libéral Warren Hench croit que l'ex-premier ministre Tony Abbott devrait quitter le Parlement s'il est incapable d'arrêter de critiquer le gouvernement. Tony Abbott s'est déjà fait rabrouer il y a 2 mois après avoir critiqué le gouvernement, mais voilà qu'il s'y est remis hier. Dans une interview à la radio 2GB, il a proposé un plan pour que le Parti libéral reconnecte avec les électeurs. Warren Hench a dit que Tony Abbott devrait respecter sa promesse et arrêter ses critiques.
He was going to step down graciously. He was going to serve in the best interest of the country, but he was not going to be do a running commentary. He was not going to be critical. You know, he would just get on with the job. Well, it's been anything but that.
Le député libéral Warren Hench. De retour à l'international en Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a rejeté les critiques de son référendum pour renforcer ses pouvoirs. Il a dit que le vote était plus démocratique que n'importe quelle élection dans un pays occidental. Ahmet Kiraz, avocat et membre du parti d'opposition CHP, dénonce une dérive autocratique au micro de RFI.
Nous avions déjà une dictature qui s'était mise en place. Là, elle a été légalisée. On a un régime de type baasiste. Il y aura le multipartisme. Comme en Syrie, il y aura des élections, mais il n'y aura désormais aucune élection qui puisse être perdue par ce gouvernement, par cette clique à la tête de l'État. Et vous avez des foules qui sont embrigadées, victimes d'un lavage de cerveau. Hein. C'est ce qu'il faut dire, parce que le gouvernement domine tout l'espace médiatique. L'opposition a très peu de moyens pour faire entendre sa voix. Donc c'est la vérité du gouvernement, c'est la vérité de Erdogan qui donc est imposée et inculquée à toute la population. Et cette situation durera jusqu'au jour où on prendra le mur. Voilà.
Le oui l'a emporté avec 51,4% des voix, mais les observateurs internationaux dénoncent un processus injuste. Le président turc refuse toutefois de donner mérite à ses conclusions.
Haddinizi bilin. Sizin hazırlayacağınız.
Know your limits. Turkey will neither listen to, look at, or acknowledge this political report. We will continue on our way. We will continue to walk our path.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le ministre allemand des Affaires étrangères Sigmar Gabriel demande aux leaders des pays d'Europe de faire valoir leur influence pour renforcer la démocratie en Turquie. Même si certains des députés européens ne veulent pas voir la Turquie entrer dans l'UE, ils croient qu'ils peuvent trouver un compromis.
The result shows that Turkish society is deeply divided. It will largely depend on whether Mr. Erdogan does everything possible to work with his opponents. If his reaction is to use strength, we in Europe have to think about what means we have to exert our influence so that the country remains a democratic one.
Le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel. Passons à la météo avant le magazine des sports de Bertrand Tungdandamé. L'automne prend du temps à s'installer et on ne s'en plaint pas. À Perth et Melbourne, aujourd'hui, c'est un maximum de 24 degrés. Adélaïde, 29. Hobart, 22. À Canberra, Wollongong et Newcastle, c'est 23 degrés. Sydney, 24. Brisbane, 27. Cairns, 29. Et à Darwin, un maximum de 33 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 18 avril. À 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle française, 4 candidats sont au coude à coude. Les États-Unis envisagent différentes façons de répondre au lancement de missiles ratés de la Corée du Nord, incluant la guerre. Et en Australie, le nombre de détenteurs de visa 457 pour travailleurs qualifiés a baissé du tiers dans la dernière année.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench